Il n'est pas rare dans l'Évangile de voir les disciples eux-mêmes demander au Christ quelle sera leur récompense. C'est dire à quel point la question de la rétribution occupe notre esprit. En général, on répond ou bien que chacun sera rémunéré en fonction de ce qu'il aura accompli, ou au contraire, puisque Dieu est bon, que tout le monde aura un salaire, quoi qu'il fasse ou ne fasse pas. La deuxième hypothèse séduit beaucoup de monde. On comprend pourquoi. Reste qu'elle a un point faible. Elle repose sur une idée de Dieu dont rien ne dit qu'elle soit vraie. Elle nous arrange bien, sans doute, mais vous n'ignorez pas que la réalité ne correspond pas toujours à nos désirs. Et ce n'est pas parce que l'Évangile d'aujourd'hui enseigne que Dieu ne se contente pas d'appliquer mécaniquement les règles d'une justice implacable, qu'il faut en conclure que la notion même de justice n'aurait plus aucun sens. D'ailleurs, l'Écriture, par exemple, dans l'Épître aux Galates, parle du jour de la colère où se révélera le juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. Comme toujours dans les paraboles, il faut comprendre la leçon et non y voir ce qu'on désire y trouver ou transposer paresseusement ce qu'on lit. Voilà pourquoi il faut d'abord et avant tout saisir dans quelle intention le Christ raconte cette parabole. De ce point de vue, le texte est très clair. Il est question ici du royaume des cieux et non de ce dont nous avons l'expérience. Et cela change tout. En effet, s'agissant des biens de ce monde, en admettant qu'on donne à celui qui n'a rien fait la même paye qu'à celui qui a travaillé, on lui octroie ce qu'il aurait pu et dû gagner. Du coup, on fait une exception, ou si vous préférez, on fait semblant. Bref, on met entre parenthèses, purement et simplement, la justice qui veut qu'on mérite ce qu'on reçoit, comme tout le monde. Mais le don de la vie éternelle n'a rien à voir avec tout cela. La preuve, qui peut atteindre par ses propres forces ou par son habileté la béatitude du ciel? Personne, évidemment. Bref, on ne peut pas la mériter comme l'ouvrier a droit à son salaire. C'est un pur cadeau de Dieu. Dans ces conditions, il est parfaitement ridicule de mesurer si quelqu'un la mérite plus qu'un autre. C'est cette vérité toute simple que nous rappelle la parabole d'aujourd'hui. D'ailleurs, vous l'aurez remarqué, le propriétaire ne répond pas à la jalousie des ouvriers de la première heure en prétendant qu'on peut faire de temps en temps une exception à la justice, ou que l'autre a des excuses, ou que sais-je encore. Il se contente de lui rappeler qu'il a fixé le salaire selon sa volonté à lui, et non en appliquant un barème qui s'imposerait. Aussi, lui dit-il, n'est-ce pas d'un denier que nous sommes convenus ? Comprenons bien, puisqu'on reçoit la vie éternelle uniquement parce que Dieu a envie de nous la donner et non parce qu'on y a droit, il peut bien la donner aux ouvriers de la dernière heure comme aux premiers. Et c'est précisément ce qu'affirme le propriétaire dans la parabole. il me plaît de donner à ce dernier venu autant qu'à toi. » Et il ajoute, « N'ai-je pas le droit de disposer de mes biens comme il me plaît ?» Bien entendu, le bon plaisir en question n'est pas synonyme de caprice, mais au contraire, l'expression de l'amour de Dieu pour sa créature. Aussi, l'Évangile oppose-t-il la bonté du maître à la jalousie de cet ouvrier. Et il précise que l'une est l'occasion qui fait naître la seconde. Faut-il que tu sois jaloux parce que je suis bon ? Voilà en quelques mots l'explication de l'origine du péché. Tout simplement parce qu'être confronté à un amour très pur et très gratuit engendre la tentation de le refuser. En s'enfermant dans un orgueil dont autrement nous n'aurions jamais eu l'idée. Et une des facettes de cet orgueil est précisément la jalousie. J'ajoute que la vie éternelle est une, comme le denier de la parabole. Par conséquent, en tout état de cause, il ne peut y avoir qu'une seule et même récompense. Faut-il en conclure que Dieu sauvera tout le monde ? Soyons honnêtes, rien dans le texte d'aujourd'hui ne permet de tirer cette conclusion. N'oublions pas, en effet, que les ouvriers de la dernière heure ont tout de même travaillé dans la vigne. Et puis, bien sûr, d'autres textes, dont celui que j'ai cité en commençant, enseigne explicitement le contraire. Or, vous le savez, l'Écriture est une seule et même parole de Dieu, c'est-à-dire que c'est un tout. Il faut donc comprendre n'importe quel passage en cohérence avec tous les autres. Répétons-le, ce que le Christ veut stigmatiser ici, c'est la prétention invraisemblable de celui qui s'imagine avoir droit au salut, et pire encore, l'avoir mérité par son comportement. J'imagine que peu d'entre nous oseront le penser ouvertement, mais reconnaissons qu'il nous est difficile d'accepter vraiment que le salut est toujours un don gratuit, et surtout, que ce ne sera jamais quelque chose qui va de soi et ne pose aucun problème. De ce point de vue-là, ceux qui craignent d'être rejetés ou d'être les derniers sont en fait bien plus proches du royaume des cieux que les autres. Encore une fois, voilà ce qu'il faut lire dans cette parabole. Cela ne résout pas la question de savoir ce que Dieu doit trouver en nous pour pouvoir nous introduire dans la vie éternelle. D'où la nécessité de lire l'Évangile dans sa totalité et sans parti pris. Reste que, d'ores et déjà, on peut deviner que ce n'est pas de l'ordre de l'héroïsme ou de l'efficacité mais de l'humilité, celle qui demande sans prétendre ni exiger, ni par conséquent être jaloux.